Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, j'aimerais ouvrir un texte de la Bible qui parle à tout le monde. Personne ne peut dire « c'est pas pour moi ». Enfin, c'est votre affaire, hein. Quoi qu'il en soit. J'avais préparé un message pour aujourd'hui. Bon, j'ai médité un peu le sujet, mais c'est pas celui que vous allez entendre. Parce qu'il y a quelquefois des changements, et dans le courant de la semaine, en fin de semaine, vraiment, j'ai eu à cœur, ou le Seigneur m'a mis à cœur, d'apporter quelque chose qui, quelque part, fait partie d'abord de l'actualité. Vous savez dans quel temps nous sommes. Le Seigneur n'est pas loin. Et on ne peut pas dire quand, on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas naturellement les choses avec précision. Mais néanmoins, on peut en juger par ce qui se passe autour de nous, dans la nature, dans le monde des nations, au travers les violences qui existent, au travers le refus de l'autorité. Et puis, on pourrait passer la matinée à citer certains événements, et tout ça doit nous amener à une réflexion qui concerne, c'est vrai, je l'ai dit tout le monde, mais aussi les chrétiens que nous sommes, c'est vrai. Et j'aimerais justement aborder le sujet des partis pris. Ça vous dit quelque chose peut-être le mot ? Prendre parti. Ce que l'on pourrait appeler tout simplement, les préjugés. Vous savez, je ne veux pas faire de politique, mais cet après-midi, il y a de grands rassemblements, il y en a eu toute la semaine, en Europe, avec des milliers et des milliers de personnes qui ont défilé dans les rues. Entre autres, pour défendre l'un, accuser l'autre, et puis vice-versa, naturellement. Vous êtes au fait de toutes ces situations, et c'est quelque chose qui est important, que nous, chrétiens, nous ayons une juste idée de ce que peut être le parti pris. Alors, je le répète, hein, c'est pas politique, hein, on est citoyen et chacun est responsable des choix qu'il fait, mais dans certains domaines, et quand ça touche la conscience, quand ça touche les relations les uns avec les autres, quand ça touche quelque part les influences que nous pouvons avoir, parce que le préjugé, ça passe par la parole. Alors, que nous ayons des préjugés pour nous-mêmes, on se les garde, qu'on le partage peut-être avec nos plus intimes, c'est normal. Mais que nos préjugés, on les projette sur les autres, alors à ce moment-là, ça devient véritablement un problème. Un problème, figurez-vous, parce que nous sommes influencés quand même par tous les médias, par le monde, l'actualité, et on s'aperçoit que la chose qui en ressort, c'est les divisions. Il n'y a rien à faire. Avec tout ce qui se passe, je ne reviens pas sur les événements, vous les connaissez pertinemment, mais ça peut aller jusqu'à des choses inimaginables. L'histoire politique du siècle dernier, ne parlons que de lui. Comment, à travers des paroles, on peut retourner un peuple, on peut le fanatiser, on ne le rend pas meilleur, on ne peut que le rendre finalement pire. C'est vrai. Alors, ça, c'est une petite indication que je donne au passage, et nous allons voir que C'est important que l'Église soit enseignée. Et c'est vrai qu'il y a eu un retournement cette semaine. J'étais parti, j'y ai travaillé, à vous apporter un message. Et puis, dans ma méditation, dans la matinée, Seigneur m'a dit « Non, c'est pas ce que tu vas dire. Tu vas changer, et je suis pas un chasseur, hein. Tu vas changer ton fusil d'épaule. » Alors moi, je sais pas si je tire à droite ou je tire à gauche, mais bon, toujours est-il que c'est une petite allusion que je fais. Alors, je vous propose, et vous allez certainement le comprendre tout de suite, en ce qui concerne, eh bien, les préjugés, le parti pris, prise de position, où on a droit. Hein. Maintenant, ça ne nous engage que nous, et avec les conséquences que ça peut avoir et que j'aimerais, finalement, eh bien, vous démontrer. C'est important. Lisons donc dans Marc chapitre 6, à partir du verset 2. Marc. Et vous remarquerez que c'est Jésus qui nous le dit, c'est pas un apôtre. Bon, un apôtre, c'est un homme. Mais la perfection, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. L'authenticité de ce que nous ne voyons pas, lui, il le voit. Et il nous connaît les uns et les autres pertinemment. Alors, on lit. « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. » Il est bien question de Jésus. « Beaucoup de gens l'entendirent et ils étaient étonnés parce qu'ils disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josse, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, de leur imperméabilité, je l'ajoute, à la vérité. Parti pris et occasion de chute. Pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Alors, nous voyons que Jésus va enseigner comme c'était son habitude. Il ne nous est pas dit ce qu'il a enseigné, mais il nous est donné le cliché des conditions dans lesquelles, après sa prédication, après ce qu'il avait dit, eh bien, comment ça s'est passé. Et il nous est dit qu'il y avait beaucoup de gens qui l'ont entendu. Donc c'était public, grand ou petit public, mais peu importe, ça a été entendu. Et la réaction, c'est que tous ces gens qui étaient à l'écoute de Jésus étaient étonnés. Il y a des mots qui sont contradictoires dans la Bible, dans la langue. Ils étaient étonnés. Ne perdons pas, nous, le sens d'être émerveillé par les paroles de Jésus. Émerveillé, vous comprenez ce que ça veut dire? D'être véritablement ébloui par la vérité, par celui qui a dit « Je suis la vérité ». Vous avez eu un soupçon que Jésus pouvait mentir? Ça n'existe pas. Ils étaient étonnés, alors ils se sont mis à parler. Chacun était allé de sa petite idée, naturellement. Et ils se sont dit, mais d'où lui viennent ces choses? Bon, il n'y a pas de mal. Ils se sont posé la question, et c'est bien de se poser la question, de l'inspiration, de ce que quelqu'un, quand il parle, eh bien, si véritablement, de quelle source? Comment se fait-il qu'il parle? Et dans quel but il parle? Donc ça, c'est les motivations. Donc, voilà, d'où lui viennent ces choses? Et ils étaient complètement étonnés, parce que je reprends le même mot, hein, puisque c'est sur celui-ci que je voudrais finalement dire hein, d'où lui viennent ces choses et quelle est la sagesse qui lui a été donnée. Donc, il y a l'homme qui parle, mais finalement ce qu'il va dire vient d'ailleurs. Ça vient soit d'en bas, c'est du cœur que la bouche parle, hein, d'accord ? Ou alors ça vient d'en haut. Et là, ça pose véritablement la question, le problème de Jésus, fils de Dieu, naturellement. D'où lui vient cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Eh oui, parce qu'il n'y avait pas seulement la parole, il y avait les faits. Et ça, un fait, on dit, il est têtu. Un fait, c'est un fait. C'est une preuve. C'est quelque chose qui est incontestable, un fait. Vous savez, dans les accidents de la route, on prend là un petit papier que l'on appelle contrat à l'amiable et puis déclaration à l'amiable. Et là, une fois que c'est écrit, c'est signé et on n'y revient plus. Hein. Alors, il y avait la parole, mais la parole était confirmée avec Jésus. Elle ne l'est peut-être pas avec nous, hein, parce qu'on dit beaucoup de choses, mais quelquefois, ça ne marche pas. On ne sait pas pourquoi, mais bon, peu importe. On est des hommes. Et Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Comment de tels miracles se font-ils ? Par ses mains. C'est bien lui, c'est pas les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas un usurpateur qui aurait trouvé la recette et la méthode de faire des miracles, etc. Non, ça lui était donné. Et on a toute la Bible pour nous parler du Messie qui viendrait et qui ferait des signes, des miracles, qui accomplirait sa parole. Voilà. Alors c'est intéressant parce que maintenant nous avons le rapprochement qui nous laisse suggérer et qui nous enseigne sur le préjugé. Il est dit ceci, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, etc. Il y avait beaucoup d'enfants dans la famille, Jésus était l'aîné. Hein. Voilà, ben vous savez tout ça. On va en reparler à Noël, on commence à être enguirlandé de tous les côtés. Alors, bon, mais peu importe, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, alors, n'est-ce pas le charpentier, le fils du charpentier ? Vous savez cet homme qui a son échoppe en plein milieu de Nazareth, on le connaît bien, bah, il travaille pour tout le monde. Hein, et puis ça ne devait pas être des grandes villes à cette époque, etc. Le fils du charpentier, où on commence à avoir une petite idée à l'égard de Dieu, mais Dieu se serait-il trompé de la condition sociale pour y faire naître, faire grandir son Messie ? Ah, ça c'est quelque chose. Imaginez-vous que si Dieu est Dieu, c'était dans le temple de Jérusalem ou dans le palais d'Hérode, ou dans les milieux là ultra, finalement, et bien à Jérusalem, religieux je veux dire, hein. Pharisiens, pourquoi pas, Sadducéens, on s'aurait fait la guerre là. Mais toujours est-il, voilà la question qui est posée. On se pose la question, etc. Et on y va avec un petit peu, chacun, non pas son objectivité, mais sa subjectivité. On aime ou on n'aime pas. Voilà. N'est-ce pas le fils du charpentier, Joseph ? Et puis il est bien dit après, n'est-ce pas le fils du charpentier, le fils de Marie ? Ah, on la connaît bien, Marie. Ah oui, on la connaît bien. Mais serait-elle toujours considérée comme indigne depuis des années, quand elle a eu cet enfant, quand il est devenu adolescent ? Maintenant, le voilà grand et le voilà maintenant en pleine autorité d'un prétendu ministère que Dieu lui aurait donné, d'un appel. Je répète, Marie, cette Marie, serait-elle considérée indigne ? Indigne, Jésus enfant serait né d'une mère, d'une fille mère. Alors on va un peu plus loin, parce que là on touche à l'éthique et on touche à la morale. il y avait certainement des gens qui savaient tout ça. Hein. Bon, ils ont régularisé leur situation après, ils sont allés voir monsieur le maire, monsieur le rabbin, et hop, hein, voilà, ça a été réglé le problème. Mais il y avait des gens qui, quelque part, ouais, parti pris, bavardage, occasion de chute. On l'a vu, hein. Il était pour eux une occasion de chute, alors qu'il aurait dû être quelque chose, quelqu'un en tous les cas. Quelqu'un que l'on attendait depuis des siècles et des siècles, nourri par la prophétie, nourri par les plus grands prophètes, attendu dans toutes les turbulences que Israël a connues, et c'est pas fini, pour là dire, eh bien voilà, notre Messie est au milieu de nous. Mais bon, à Nazareth, avec un tel père, terrestre, avec une telle mère, hein, douteux, et ça va bon train. Alors, il faut replacer la parole où elle est. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun. Nous sommes des gens où Dieu nous a fait grâce d'avoir sa parole entre nos mains, de la lire, de la méditer, de lui demander par la prière de comprendre ce qu'il veut nous dire, de faire sa volonté, d'obéir, enfin, bon, tout le reste. Et quand on en est arrivé là, eh bien, il est quand même temps, peut-être, de ne pas nous faire trop d'illusions. Dans Ésaïe, chapitre 52, parce que Dieu ne va pas chercher les grands, il ne va pas chercher les nobles, il ne va pas chercher les puissants, il ne va pas chercher ceux qui ont une autorité royale, seigneuriale, hein, enfin tout ce que l'on veut, et puis le mettre à la sauce d'aujourd'hui. Dans Ésaïe 52, verset 13, on va lire ce qui est dit. Dieu annonce prophétiquement, « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, ça c'est véritablement la vision de la croix et de ses souffrances, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie, ce qui n'a pas été finalement le cas, hein, pour tous. Alors les rois vont se courber, ils fermeront la bouche, ils verront ce qu'ils ne leur avaient point été raconté, mais ils vont véritablement découvrir une bonne nouvelle, que l'on appelle la bonne nouvelle de l'Évangile, et ils attendront ce qui n'avait jamais été entendu. Quelque chose d'ineffable. Et ça se passe tout simplement. Au chapitre 53, il est dit, mais qui a cru à tout cela? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel dans les miracles qu'il a fait? Et puis le reste? Et il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté, ni éclat, ni pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas, et pourtant ce sont nos souffrances. Et puis le reste, vous pourrez le relire, parce que c'est quand même un texte cadre. Le reste, on le sait ça. Comment Jésus, dans les fêtes, s'est comporté? Il n'est pas venu en roi, il n'est pas venu en homme puissant. Il est venu comme Ésaïe, 800 ans avant que le Messie apparaisse en Israël. Il est venu tel que nous l'avons lu il y a un instant. Et c'est bien justement le problème. Méfions-nous des choses qui, quelque part, nous sont présentées avec une certaine grandeur, hauteur. Vous savez, on est dans l'époque des fake news. Hein? Ah, c'est celui qui aboie. C'est celui qui parle. C'est celui qui, finalement, eh bien là, est un tribun. Il y en a toujours eu dans le monde qui remporte la mise, enfin, provisoirement. Parce que ça se termine, souvent, dans la chute. Écoutez bien, dans le texte, je l'ai lu, il nous est parlé des plus proches. Papa, maman, Joseph, Marie, et puis il nous est donné même le nom des frères et des sœurs, parce qu'il avait des sœurs, hein, aussi, Jésus. Et on voit quelle situation dans laquelle l'Évangile nous présente Jésus et sa famille. Un jour, Marie s'approche de Jésus qui était en train de prêcher devant des foules et lui dit « Rentre à la maison. Arrête. Non, non, moi je te connais, t'es mon fils. » Et puis les frères aussi, à un moment donné, eh bien, on va avoir une attitude plus que douteuse. Ben, vous voyez, bien sûr, ils l'ont vu. Quand ils étaient enfants, quand ils ont joué ensemble, quand ils étaient adolescents, après il est devenu certainement charpentier comme son père, et puis, ben voilà. Il y avait tout d'humain dans Jésus qui cachait la personnalité divine. Il ne faut pas l'oublier, hein. Vous enlevez ça à la Bible, vous enlevez ça à l'Évangile, C'est plus rien du tout. C'est un livre comme les autres. Les plus proches se sont livrés à ce genre de bavardage. Et les autres proches ou lointains sont scandalisés, figurez-vous, par quoi ? Par la vérité. La vérité, j'ai bien dit. Que l'on soit scandalisé par le mensonge, le meurtre, toutes sortes de turpitudes, d'accord. Mais scandalisé par la vérité, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et nous avons pu rencontrer quelquefois des gens, bah, c'est ce qui va se passer un peu là, là dans les manifestations, moi je ne prends pas parti hein, de toute façon. Et heureusement d'ailleurs. Mais des gens devant le crime, devant les atrocités, devant un enfant que l'on met dans un four, qui rappelle les sinistres périodes d'il y a à peu près 80 ans, ben moi, je ne sais pas, mais c'est terrible. C'est de l'abomination, hein. Vous êtes au courant. Bon. Scandalisé par la vérité. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous fatigués et chargés, et je vous donnerai ma parole. Je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Alors pourquoi me croyez-vous pas ? C'est un mal de toujours douter de la vérité. Et ça nous ramène au jardin d'Éden avec Ève et Adam. Dieu a dit. Et puis il y en a un autre qui va parler. Mais non, tout ça ce sont des carabistouilles. Excusez-moi, j'aime bien le nom. Carabistouilles. Ouais. Un mal de toujours, ce sont les préjugés. Nul n'est prophète, dira Jésus, dans sa propre pratique. Vous en avez certainement fait l'expérience. De vos parents, de vos enfants, de vos collègues de travail. Ah tiens, j'ai quelque chose à dire, une bonne nouvelle. Allez, arrête avec tes histoires, là. Ça va, c'est bon, c'est bon. Hein ? Et c'est souvent les plus proches. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs, ça ? Les gens n'ont pas et ne supportent pas lorsque... Bon, ils nous connaissent, bien sûr, ceux qui nous ont vus naître. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose. Ça, c'est sûr. Nul n'est prophète dans sa propre patrie, dans sa maison. Excusez-moi, je vais oser. Non, vous ne tracassez pas, ce n'est pas un bombardement. Ouais. Mais peut-être de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça pendant tout le... Alors, si quelqu'un veut voir, c'est bien. Quelqu'un peut aller pour prévenir, s'il vous plaît. C'est dommage. Même son église, et même son église, eh oui, voilà, on n'est pas prophète même chez nous. Hein. Même dans notre propre, finalement, lieu qui nous a vu naître spirituellement, où nous avons des frères et des sœurs, où là, quelquefois, eh bien, nous avons quelque chose à y faire et à dire, tout simplement. On peut avoir beaucoup plus d'égards pour des étrangers, des inconnus, alors que l'on indiffère et méprise ceux que nous voyons, ceux que nous voyons bien, et avec lesquels nous vivons. C'est ce qui se passe à Nazareth, hein. Pourtant, s'il y avait des gens qui connaissaient bien Jésus, eh ben ça devait être sa famille, ses parents. Et quelquefois, on fera plus de confiance à des gens qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, je reste biblique, hein. Et on leur fera beaucoup plus confiance que des gens, voilà, qui sont où nous les voyons et vivons avec eux tous les jours. Je voudrais lancer une alerte. C'est que les partis pris, le préjugé, mettez-vous bien ça dans votre cœur, produisent la stérilité des relations. Un moment ou un autre. Ils peuvent, dans un premier temps, eh bien là, finalement, provoquer l'étonnement, provoquer l'enthousiasme. Ah, oh, c'est vrai ça. Mais à un moment donné, il y a toujours un revers, parce que ça ne vient pas de Dieu. Il faut le dire, le préjugé, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y avait pas de préjugé dans le jardin d'Éden. Hein. C'était comme ça, et puis c'était tout. Hein. C'est-à-dire que nous nous enfonçons, quand il s'agit d'une communauté chrétienne, nous nous enfonçons dans la médiocrité et il n'y a aucun fruit positif. Il ne faut pas s'attendre que quelque part derrière ce labyrinthe, il y ait quelque chose qui ait une certaine valeur de développement et d'épanouissement. Dans le texte, certains jugeaient qu'il eût été nécessaire de faire des miracles afin que Jésus prouve son authenticité de fils de Dieu. Ah ben oui, bien sûr, il a fait des miracles. Et il faut qu'il en fasse encore parce qu'on n'est pas tout à fait convaincu. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques, il ressuscite les morts. Mais ce n'est pas suffisant. Cependant, il faut ajouter que dans un climat d'incrédulité et dans une atmosphère de préjugés, c'est vrai dans tous les domaines de la société, c'est vrai dans le domaine religieux, c'est vrai dans toutes sortes de choses, eh bien, le surnaturel, même le surnaturel, n'a jamais créé la foi. C'est la parole de Dieu qui crée la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, point final. Et on n'a pas à discuter. Vous allez me dire, mais c'est de l'arbitraire. Non, ce n'est pas de l'arbitraire, c'est la vérité. Alors on veut l'entendre ou on ne veut pas l'entendre, ça dépend des dispositions de notre cœur, tout simplement. Alors, dans le texte, en ces circonstances de doute et de défiance, parce qu'il y avait ce climat, hein, vous savez, tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Hein, et là, il y a toutes sortes de choses. Hein. Ce n'est tout simplement que l'aveu de leur culpabilité à ces gens qui sont là, assis entre deux chaises. Ils ne le disent pas. Ils ne veulent pas avouer qu'ils sont coupables. Mais néanmoins, eh bien là, finalement, on est à faire un aveu, quelque part. Si l'évangile est vicié, on en parle, par ce genre de virus-là, c'est pas le Covid, mais c'est quelque chose qui lui ressemble, hein, ça fait mourir, hein, par des mauvaises dispositions intérieures, exprimé ou non, si, quelque part, l'évangile ne rend pas meilleur, il rend pire. Moi, quelquefois, j'ai des doutes sur certains que j'ai connus et qui, quelque part, ils ont entendu l'évangile. Ils ont dit, c'est formidable, vous savez, comme dans la parabole des quatre terrains. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure, ils se sont refroidis. Ils ont retourné leur veste et au lieu d'une avancée vers le meilleur, ils sont devenus pires parce qu'ils ont entendu l'évangile, ils sont responsables. Il vaudrait mieux avoir des gens qui sont ignorants et qui, quelque part, ne veulent pas savoir. Ils seront jugés différemment. Hein. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, je crois, au chapitre 5, au verset sur les jugements, naturellement. Hein. Ceux qui refusent l'évangile, après l'avoir entendu naturellement, ceux qui le critiquent, ceux qui le salissent, s'ils n'attendrissent pas le cœur, s'ils ne réveillent pas la conscience, il endurcit. Vous vous souvenez de Moïse et Pharaon? Deux positions, hein, c'est tout. Hein. Si l'évangile ne touche pas, il irrite. S'il ne sauve pas, il nous perd. Et tout ça, ça navigue autour du parti pris. Dieu nous demande d'être simples comme des petits-enfants. Oui, c'est une beauté, un petit-enfant, n'est-ce pas? C'est formidable, ça fait la joie de papa et maman. Vous allez voir, quand il va grandir, il sera toujours aussi gentil. C'est moi qui vous le promets. Ah ben, il y a des mamans, quelques-unes, qui disent « Amen ». Il y a peut-être des grands-mères qui disent « Oh là 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 !» Bon, on aime nos petits-enfants. Coupable et injuste préjugé, le parti pris est rarement positif. Vous n'allez pas pouvoir m'entendre. Hein. Vous n'allez plus vouloir m'entendre. Ouais. Et pourtant, vraiment j'ai à cœur de vous le dire tout ça. Parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a un proverbe qui dit ceci, c'est peut-être un peu sévère, mais c'est pourtant quelque chose de vrai qui peut se vérifier. Les préjugés sont les rois dans un royaume qui est tout simplement la vulgarité. Eh oui! la vulgarité, le préjugé dans le monde, et surtout quand ça vient des enfants de Dieu qui ont été éclairés, eh bien c'est quelque part l'air ambiant de la vulgarité. On ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas chercher plus loin. On a entendu une chose, alors ça doit être bien, ça doit être comme ça. Et vous savez que ça nous corrompt, ça. C'est un poison, c'est toxique, c'est nocif. Et il y a une parole qui nous dit ceci dans Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 4, il nous dit « Ne jugez de rien avant le temps ». Mais oui, il y a des mystères, il y a des choses qui nous troublent, il y a des choses que nous avons du mal à comprendre. Mais laissez à Dieu, et justement je voudrais peut-être vous donner la référence, parce que quand même elle est assez importante. Je l'ai eue cette nuit, cette référence, parce que moi je travaille la nuit, hein. Je devrais avoir finalement eh bien là, des primes pour le boulot que je fais. Hein. Alors, 4, 5, écoutez bien. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, ce n'est pas la peine d'aller le chercher, à gratter, à retourner le monde. Non, non, vous ne le savez pas, mais vous le saurez un jour. Si vous ne le savez pas sur la terre, vous le saurez de l'autre côté. Parce que là-bas, il y aura certainement eh bien, des choses. Hein, et encore, on vit dans la grâce. Hein. Et ça sera la grâce là-bas. Hein. On pourra dire, Seigneur, je me suis trompé. Ben oui, bien, si on se trompe. Ben, le Seigneur est capable de pardonner nos péchés. Mais en disant, et en morticus, en disant « j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison », alors à ce moment-là, il n'y aura pas de... C'est pas possible. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, hein, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et le préjugé, c'est vraiment... C'est l'ombre, hein, on ne peut pas dire le contraire. Et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes qui est important. Le cœur, il nous est simplement, c'est du cœur que la bouche parle. Alors quelquefois, ben, tu tiens ton cœur tout simplement, tranquille, et puis ça t'évitera de raconter des histoires sur les uns, sur les autres, sur les situations qui existent dans le monde et qui sont fausses. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, parce qu'on arrive dans une période où l'antéchrist va arriver. Et tout sera bâti sur le mensonge, sur des choses fausses, et nous le voyons déjà dans les peuples qui se battent actuellement. Enfin, je ne vais pas vous citer, parce que bon, c'est inutile, mais quand il y en a un qui dit une chose, l'autre dit exactement, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Et en inventant des trucs et des machins, excusez-moi, hein, qui sont complètement loufoques, alors quand vous entendez l'un après l'autre, là vous avez compris. Hein, hein. Alors bien sûr, si c'est dévoilé 3 mois après ou 2 ans après, c'est plus difficile. Qui manifestera les desseins des cœurs, alors chacun recevra, et vous n'avez pas vu le texte, mais chacun recevra la louange qui lui sera due. Ce n'est pas le châtiment, ce n'est pas la punition, parce que celui qui se tient dans la vérité, qui se tient loin des préjugés, ou s'il en a eu, qui s'est répandu d'une mauvaise habitude qu'est le préjugé, alors à ce moment-là, eh bien, il y aura un effet de la grâce de Dieu dans notre vie. Ça, c'est clair. Je dis bien, le préjugé, ça fait partie du royaume de la vulgarité, car ils sont la raison des simplices et des superficiels. Excusez-moi, nous ne sommes pas appelés à être des superficiels dans notre vie chrétienne. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes conséquents. On ne multiplie pas, Paul dit, je fais une chose. Eh bien, on reste sur cette chose et on vit dans la vérité. Et dans parce qu'autrement, la conscience que Dieu a mise dans notre cœur ne parlera plus au bout d'un certain temps. Ça fait comme avec Pharaon. Hein. Vous direz, mais le bien est mal et le mal bien. Vous ferez la confusion entre les ténèbres et la lumière. Parce qu'on tombe à ce moment-là dans une habitude dans laquelle on va s'inscrire et dans laquelle on va périr. Ouais. Simpliste et superficiel. Prenons de la hauteur. Ouais. Nous avons besoin d'une remise à jour tous les jours. Moi, je le demande. Je dis, Seigneur, donne-moi de pouvoir être dans ta pensée continuellement. Surtout quand on a une fonction. Enfin bon, maintenant c'est un petit peu Moi qui suis en EHPAD, c'est passé de mode. Hein. Mais bon, toujours est-il que... Non, j'y suis pas, hein, pas encore. Mais toujours est-il que quelque part, nous devons être conséquents, mes frères et sœurs. C'est pas par rapport à moi, mais c'est par rapport à Dieu. Si vous avez des comptes à rendre, mais c'est au Seigneur, c'est pas à l'un. Moi, je peux toujours vous écouter, ça, il n'y a pas de problème. Je peux vous encore vous dire certaines choses, ça, c'est certain. Mais vous ne l'acceptez pas. Mais vous n'êtes pas redevable, finalement. Hein, et je ne suis pas non plus redevable, parce que bon, on écoute ou on n'écoute pas, tout simplement. C'est une question d'autorité, là. Les causes, et là, nous les voyons magistrales en ce moment, les causes, c'est la folie, de la haine et de la jalousie. Eh oui, la haine et la jalousie qui aujourd'hui est en train de pourrir le monde, de corrompre le monde, la jalousie. Ouais. Rongée par la jalousie, c'est une gangrène, c'est une carie des os, la jalousie. Et la haine aussi. Si nous regardons dans Jean chapitre 10 et verset 20, il est dit cette parole, tout simplement, 10 et verset 20, voilà ce qui nous est rapporté. Plusieurs d'entre eux disaient, on est un peu toujours dans la même configuration de notre petite visite dans la maison de Nazareth, pardon. Donc, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Ils n'y allaient quand même pas trop, ils n'y allaient pas avec douceur. Hein. Il est fou, Jésus! Pourquoi l'écoutez-vous? Ah oui, il aurait préféré que c'est tous les gens qui racontent des balivernes, ils soient écoutés et que la vérité elle, ne passe pas. Hein. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, avec un peu plus de raison et un peu plus de sagesse, mais ce ne sont pas les paroles d'un démon. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et on revient au miracle, qui confirme la vérité. Et non pas le miracle fait par des occultes, des occultistes, des marabouts, et tout ce que vous voudrez les mettre les uns derrière les autres, ils sont légions et qui quelque part se complaisent à raconter des mensonges et qui quand même quelque part font des miracles pour convaincre. Bon, je vais bientôt terminer parce que c'est un sujet de grande perplexité et de contradiction. Tiens, contradiction, c'est pas d'aujourd'hui que Jésus a eu maille à partir hein, finalement avec toutes sortes de gens dans Luc hein, par exemple. Il est dit cette parole, tout simplement, et vous la connaissez, c'est Siméon. Vous connaissez Siméon? Il parlera de Jésus, prophétiquement, il dira « Mes lumières pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses, à ce moment-là. Bon, ça s'est arrangé par la suite. Qu'on disait de lui, Siméon les bénit et dit à Marie « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à venir et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi une épée qui te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Voilà ce qui avait déjà été vu en prévision de Jésus le Messie, de Jésus le prophète. Ça ne s'est pas passé forcément, eh bien de la meilleure manière. Je termine. Le courage de vouloir savoir qui dit vrai. Et c'est vrai que quelquefois on est perplexe. On peut dire qu'on a vu des centaines et des milliers de personnes hein, dans l'exercice de notre ministère. Alors pour beaucoup, c'était bien, pas de problème, hein, une grande partie. Mais quelquefois, on a eu quand même des grands doutes. Hein. Alors quand on a un doute, surtout quand il s'agit des eaux du baptême, de les engager... Aujourd'hui, ben, le baptême s'est passé un peu de mode. Hein. Il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus rien du tout. Vous voulez croire en Jésus, ben, vous croyez en Jésus. Vous voulez faire partie d'une église, ben, vous rentrez comme ça. C'est pas. Hein. Il faut être un petit peu plus sérieux que ça, hein, de toute façon. Ça, c'est certain. Et nous voyons qu'il y a là l'obligation de dire, de chercher qui dit vrai. Nous avons l'exemple de Nicodème. Parce qu'il est venu voir de nuit Jésus. Mais il est venu quand même le voir. Il était dans l'obscurité, ils ne se sont pas mis en dessous un réverbère pour discuter, je ne pense pas. Mais néanmoins, il est venu le voir, bon, dans ces conditions. Mais Nicodème a eu l'audace de passer d'une certaine opinion de pharisien à une conviction de chrétien. Ne restons pas dans des opinions, dans toutes sortes de choses qui sont vagues. J'ai entendu, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a une autorité qui m'a raconté ceci et cela. Ben attendez, ça se vérifie tout ça. Et je pense qu'on n'a peut-être pas trop entendu parler de l'ami Nicodème dans le reste de la Bible. Mais moi, je pense qu'il était chrétien à la fin. Personne ne peut faire les œuvres que tu fais, là c'est encore le miracle, si Dieu n'est avec lui, tout simplement. Et puis, il y a encore un autre exemple. C'est un autre personnage soucieux de vérité. Il était soucieux de vérité dans l'ambiance dans laquelle il était. Et il voulait mesurer l'exactitude et les faits de ce qu'il avait entendu parler de Jésus. Et il voulait se rendre compte par soi-même et se faire une idée juste de Jésus. Moi, j'ai eu un formateur qui me disait, quand je me préparais au ministère, il me dit « Alain, il faut que tu saches qu'on ne peut pas écouter qu'une personne, il faut écouter l'autre. Et après, vous ferez votre idée. Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son ?» C'est très élégant. Mais toujours est-il que Zachée, comme Nicodème, chacun avec sa personnalité et chacun avec ses réactions, eh bien, il voulait chercher à voir et à savoir qui était vraiment Jésus. Et il est même monté dans un sycomore. Coucou ! Comment ça fait que tu m'as vu ? Mais Jésus pouvait lui répondre, mais moi je vois tout le monde. Hein ? Caché derrière les branches d'un sycomore, ben oui, tout simplement. Il voulait savoir qui était vraiment Jésus. Attention à notre sentimentalisme, à notre, comment pourrait-on dire, il y a objectivité et subjectivité, voilà, hein, j'ai trouvé maintenant, à notre subjectivité, parce que bon, nous sommes influencés par ce que nous entendons, par ce que nous voyons, par ce que nous ressentons, par ce que nous vivons finalement, tout ça. Mais attention, le Saint-Esprit est là pour nous maintenir dans notre âme, dans l'équilibre. Parce que c'est l'âme, ça, c'est pas le corps, hein, ça c'est sûr, même si ça passe par le corps. Et nous avons besoin de nous forger, je dis bien, hein, on parle du forgeron là, hein, parce qu'il tape, hein, c'est sûr, hein, il fait des choses avec du fer. Nous avons besoin de nous forger une réelle certitude. Et il y a un texte qui m'a toujours marqué, c'est dans Ésaïe. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix et... » Cette paix que Dieu met dans notre cœur, là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hésitation, développe la solide confiance et une confiance qui dure. Parce que ce n'est pas doux d'avoir la confiance pendant quelque temps, mais une confiance qui dure, tout simplement. Ne jugez pas avant le temps. Si vous jugez, alors à ce moment-là, faites attention de juger non pas selon les apparences, mais de juger selon la réalité, les faits, la vérité. Ouais, ça c'est important. Ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais toujours est-il que nous avons vraiment besoin de nous exercer, eh bien, à cela. Il y a des Grecs qui sont venus tirer la manche de Jacques, et puis je ne sais plus de quel. Quand Jésus était vraiment au summum, juste avant la croix, quand ils sont venus lui dire... Voilà, nous sommes des prosélytes grecs, probablement, et nous voulons voir Jésus. Ben, ils avaient fait le voyage, certainement de la Grèce, pour venir à Jérusalem pour adorer Dieu, mais ils ont découvert le Messie à ce moment-là. Ils ont découvert une autre dimension, parce qu'ils avaient l'occasion d'être au bon moment, au bon endroit, et ils ont saisi l'occasion, probablement pour devenir chrétiens, parce qu'ils voulaient voir Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, de toute manière. Oui, permettez-moi, mais je sais que vous n'avez pas trop le choix. Dans Matthieu, écoutez bien, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Eh oui, ce que tu as fait à l'autre, mais il faut que tu t'y attendes, et tu vas peut-être aller. Tu ne vas pas être content, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Eh bien, il faut remonter peut-être un peu en arrière, hein. Voilà, j'ai entendu ça dernièrement. Oui, oui, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand on voit le parcours, bon, on se dit, mais ce que tu as fait, à l'autre ou ce que tu as fait aux autres, ça te revient. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et la poutre? Tu ne vois pas la poutre dans le tien. Et ça, c'est écrit aussi. Alors, dans Jacques, et je finis avec ça, dans Jacques, il est donné cette parole, parce que je crois qu'elle est tout à fait pertinente. Donc, dans l'épître de Jacques, il est dit ceci, chapitre 2 et au verset 13, « Que personne, s'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente même personne. Mais si chacun est tenté par ce qui est, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle enfante le péché étant consumé, produit la mort. » Oui, ça c'est quelque chose dont nous avons besoin de faire attention. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Ça c'est le chemin, c'est le chapeau hein, qui clôture finalement notre message. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Il n'y a plus de jugement pour celui qui, quelque part, eh bien, même s'il a fait des erreurs et toutes sortes de choses, revient au pardon de Dieu. Et s'il revient au pardon de Dieu, c'est qu'il est convaincu qu'il a changé. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne la grâce. J'espère que je n'ai pas été un peu trop rigide, un peu trop méchant. J'ai prêché l'Évangile, tout simplement. Et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour qui veut la recevoir comme telle. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, nous ne voulons que ta parole. Nous voulons que la vérité de ta parole. Et nous savons que tu nous as parlé aussi de quelque chose de tellement important dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, à quelle que soit en effet eh bien, sa raison d'être, dans l'Église aussi, c'est la vérité qui produit l'unité. Et nous savons que lorsque les sentiments, les motivations sont des motivations nobles, des motivations franches et qui véritablement ne sont pas là empreintes d'une revanche, de quelque chose qui rend la monnaie de sa pièce, qui véritablement sont pures. Quand les motivations sont droites et elles sont au bénéfice de l'autre, en effet, au bénéfice de tout le monde, l'unité, alors à ce moment-là, nous croyons, Père éternel, que tu envoies ta bénédiction pour le temps et pour l'éternité. Merci Jésus. Amen.